Voilà, bienvenue à cette rencontre qui s'appelle Rencontre parce qu'au début, c'était un atelier qui n'était pas prévu. Et puis, effectivement, comme on l'a vu dans les différents ateliers auxquels vous avez participé à la table ronde, l'aspect spirituel est souvent cité quand même comme quelque chose d'important pour avancer dans un changement, dans une réponse aux défis climatiques. Et donc, c'est pour ça que finalement, les organisateurs ont accepté qu'il y ait un atelier sur écologie et spiritualité. Alors, moi-même, je fais partie de l'association Démocratie et Spiritualité, qui est une association qui a été créée il y a maintenant pratiquement 30 ans par des personnes comme Jean-Baptiste de Foucault, que vous connaissez peut-être. Alors, on n'est pas spécialisé dans l'écologie, mais on est spécialisé dans ce lien nécessaire, en tout cas, entre le fonctionnement de notre démocratie et la dimension spirituelle. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais excuser déjà Bernard Ginisti, qui était prévu comme co-animateur avec moi. Malheureusement, le pauvre, il a eu un infarctus, donc il ne peut pas être là, mais il est hors de danger, je vous rassure pour ceux qui le connaissent. Je vais m'excuser aussi parce que dans cet atelier, on ne respecte pas du tout la parité. Ah, donc je pense que vous l'avez repéré. Voilà, on n'a pas eu de chance parce qu'il y avait une intervenante, Christine Christophe, qui devait venir et qui a renoncé au dernier moment. Elena Lacida, qui est très connue aussi en ce domaine, n'était pas libre. Voilà, donc c'est des intervenants essentiellement masculins, mais heureusement, au titre d'Église verte, on aura quand même une voix féminine, heureusement. Voilà, ces excuses étant faites. Je vous proposerai, pour bien démarrer cette rencontre et pour bien vivre cette dimension spirituelle qui nous réunit, eh bien, de prendre un temps de silence. Un temps de silence en pensée avec Bruno Latour. Bruno Latour, qu'on a évoqué dans la table ronde, et qui est un homme qui avait, je crois, vraiment articulé dans sa vie la préoccupation écologique et la spiritualité. Voilà, donc le temps que tout le monde s'installe, on va prendre une petite minute de silence pour bien nous mettre en condition d'écouter nos intervenants. Je crois qu'il y a encore des chaises ici. N'hésitez pas à avancer. Voilà. Au lieu de rester debout.
Il n'y a rien d'autre.
Oui. Voilà. Bon. En tout cas, merci d'avoir respecté ce temps de silence en communion avec ce grand philosophe et ce grand spirituel qu'était Bruno Latour. Donc, ce que je disais en introduction, et je vais faire une courte introduction, beaucoup évoquent la nécessité pour avancer d'une conversion écologique. Et beaucoup évoquent même le terme conversion spirituelle. Alors, spiritualité, je vais vous donner la définition que nous avions retenue dans l'association Démocratie et Spiritualité. Ça n'est pas réductible au religieux. Alors, le religieux en fait partie, mais ça n'est qu'une forme du spirituel. Donc, il y a du spirituel qui peut ne pas être religieux. Alors, voici la définition que nous avions dans l'association Démocratie et Spiritualité. Ce qui fait appel à l'intériorité de l'homme lui fait refuser l'inhumain, l'invite à s'accomplir dans une recherche de transcendance, à donner du sens à son action, le met à l'écoute des autres, je dirais humain et non humain, et le porte à donner, échanger, recevoir. Voilà ce qu'est le spirituel. C'est une définition que nous avait donnée Maurice Bellet. Voilà, donc voilà, ça n'est pas que le religieux, mais évidemment, le religieux en fait partie. C'est quelque chose ou quelqu'un qui nous aide à nous dépasser. Et donc, en effet, on a besoin de nous dépasser pour arriver à changer et pour nous convertir, notamment au plan de la lutte contre le changement climatique. Et donc, la conversion écologique implique, nous semble-t-il, c'est ce que beaucoup d'auteurs ont indiqué, une conversion spirituelle. Et de quoi s'agit-il ? Donc, dans un premier temps, nous allons essayer de répondre à cette question en traitant du rôle de la spiritualité dans l'émergence de cet imaginaire. Il nous faut un nouvel imaginaire pour avancer contre le changement climatique. Comment le spirituel peut-il contribuer à cet imaginaire ? Et en particulier, on peut se demander quelle doit être la place de l'être humain vis-à-vis de la nature ? Est-ce que, comme certains l'ont dit, la spiritualité chrétienne, c'était uniquement la domination de l'homme sur la nature ? Ou est-ce que c'est autre chose ? Est-ce que l'être humain est invité à être un simple participant ou un jardinier ? Voilà, donc notre ami William Clapier va nous en parler. Et puis ensuite, on écoutera Stéphane Lavignotte qui nous parlera des différentes conceptions du divin, les différences qu'il appelle des théologèmes, un terme que je ne connaissais pas, mais qui nous a fait connaître, les différentes conceptions du divin qui sont derrière différentes approches de cet imaginaire. Voilà. Alors, ces intervenants qui sont là, il y a donc William Clapier qui a fait ce livre « Effondrement ou révolution » que vous avez maintenant en livre de poche sur, dans le stand de la librairie. Et puis, donc, Stéphane Lavignotte, « L'écologie, champ de bataille théologique ». Voilà. Et puis, dans un deuxième temps, eh bien, on verra, si vous voulez, dans un premier temps, on va voir comment l'écologique, en quelque sorte, implique le spirituel et quel spirituel. Voilà, c'est ça. Et puis, dans un deuxième temps, on verra comment les acteurs spirituels, et notamment religieux, eh bien, intègrent l'écologie dans leur chemin, dans leur chemin spirituel. Et ce sera introduit par Arnaud Montoux, qui a fait un gros travail qui s'appelle « Réordonner le cosmos », c'est sa thèse, qu'il nous présentera à partir de son étude des chapiteaux de l'abbaye de Cluny. Donc, je pense que ça va être très intéressant aussi d'être dans une approche aussi à la fois artistique, historique et théologique dans une deuxième partie. Et là, nous aurons dans une deuxième partie des réalisations qui se font dans notre région, notamment à Thésée, avec Frère Barthes qui est ici, et puis avec aussi le groupe Église Verte, qui est une initiative des églises pour avancer dans la prise en compte de la dimension écologique dans le chemin spirituel. Voilà un gros programme. Je ne sais pas si on va arriver à tenir dans le délai prévu. On pourra peut-être déborder un petit peu, mais je pense que ça va être intéressant. Puis il faut du temps pour vous laisser réagir et poser des questions ou contester ce qui aura été dit. Bon, ben on va laisser la parole à William Clapier. Comment donc le défi écologique nous amène à une conversion spirituelle ?
Bonjour à tous. Merci, Patrice. Donc, ce sont vraiment des immenses questions. Conversion des imaginaires, c'est le mot qui est employé. Conversion écologique pour vraiment aller au fond de soi qui implique une conversion des imaginaires. Et donc, conversion spirituelle, je vais essayer d'éclairer ce propos en employant des mots qui sont souvent inflammables, spirituel, spiritualité, surtout dans notre douce France. Comment ? C'est trop près ? Excusez. Ah oui. Ah oui, d'accord, parce qu'on va conseiller de mettre sous le menton. Voilà. Et dans un deuxième temps, donc, la place de l'humain aussi dans la toile du vivant, avec un autre mot inflammable, l'anthropocentrisme, donc avec tout ce qui se passe derrière les religions monothéismes. Et donc, j'ose relever le défi. Voilà. Donc, je crois que dans un premier temps, et ce n'est pas la peine d'insister beaucoup pour souligner que les racines, les causes de l'hypercrise, la méga-crise, la crise protéiforme, le mot crise est trop faible, que nous traversons, dont le séisme écologique est un symptôme, que ces racines sont humaines, anthropiques, au principe donc des désordres structurels de nos sociétés, des modes de vie écocides qu'ils induisent, il y a cette manière d'être au monde, au vivant, une relation d'être au vivant qui est gravement déviante. Donc une relation, ça a été dit dans les ateliers précédents, qui a instrumentalisé la nature, qui l'a chosifiée à des fins de rentabilité commerciale, une relation qui a fini par désenchanter la nature, et en retour, ben, l'humain, chacun d'entre nous, s'est dénaturé, on pourrait dire désenforesté, dirait Baptiste Morisot, déraciné de cette terre dont il est façonné. Donc ce rapport tronqué, cette relation déviante, elle découle d'une vision. Une vision qui procède de notre regard, celui de notre esprit, lequel a forgé des idées qui ont généré ce système thermo-industriel ultra-dominant, caractérisé par une marchandisation du vivant qu'on peut dire vraiment délirante et qui nous emmène dans la situation d'impasse civilisationnelle dans laquelle nous sommes. Donc il y a un besoin, le besoin d'un changement de direction du regard, il est patent, pour ne pas dire criant. Et en citant, en formulant ainsi les choses, changement de direction du regard, je n'ai fait que citer la définition de la conversion métanoïa des philosophes de l'Antiquité grecque. Changement de direction du regard. On parle aujourd'hui, à juste titre, de bifurcation, de virée de bord, dirait Fred Vargas. OK, je valide. Et sans nul doute, donc l'hypercrise actuelle, elle implique vitalement un changement de paradigme culturel pour fonder les bases d'une nouvelle civilisation dont les piliers seront le recouvrement de notre lien, employons les gros mots, ontologique avec la nature, rien de moins. Alors, de fait, la conversion, la bifurcation socio-écologique, elle s'inscrit dans une bascule civilisationnelle qui est déjà à l'œuvre. Inexorablement, nous le voyons, non seulement avec les nouvelles conditions climatiques, biosphériques, leurs conséquences sociétales, mais aussi avec l'avancée stupéfiant de la révolution numérique. Nous entrons dans une société numérisée. Alors, gageons que cette bascule soit pour le meilleur. Tout l'enjeu est là. Et Aurélien Barreau n'hésite pas à parler de la nécessité d'une refonte axiale et ontologique pour réorienter la marche de l'humanité, si celle-ci, évidemment, veut vivre dans un monde durable et surtout désirable, habitable pour tous. Donc, quand Aurélien Barreau formule le diagnostic, la nécessité pour sortir de l'impasse d'une refonte axiale et ontologique, eh bien là, chers amis, on est au cœur de la conversion spirituelle, noétique. Autrement dit, l'action primordiale pour remédier au délitement, effondrement de notre planète, provoqué par notre civilisation enfiévrée par une technocratie hors sol, cette action ouvrant la voie pour nous sortir de l'impasse, elle est dans une conversion socio-écologique qui présuppose, qui implique, j'en suis convaincu, une conversion spirituelle qui va refonder, retisser notre relation au vivant. Donc une conversion créatrice de nouveaux imaginaires, de nouvelles valeurs existentielles, si vous préférez. Car ce sont elles qui inspirent nos modes de vie. Alors qu'entend-on précisément par conversion spirituelle ? Et évidemment, genre, je le disais en introduction, le mot spirituel est grevé de lourds préjugés. Je ne vais pas trop rentrer dans ces controverses. Et davantage encore si l'on prononce le mot spiritualité. Alors, parler de conversion spirituelle, de chemin spirituel, de dynamique spirituelle, de spiritualité, nous renvoie au centre de gravité qui caractérise tout un chacun, qui caractérise la personne humaine, le centre de gravité de ce que nous sommes. Ce centre de gravité est une puissance pensante et désirante, libre, douée de libre arbitre, et par conséquent capable du meilleur ou du pire. Une puissance à plusieurs étages ontologiques facultés, de l'analyse mathématique, discursive, analytique, jusqu'à l'intuition poétique, génératrice des arts, et qui nous prédispose à des affects, à l'écoute contemplative. Voilà un des mots clés de toute spiritualité, c'est l'écoute, l'attention. Donc le silence de l'écoute, l'écoute silencieuse du vivant. Donc être sensible à sa beauté immatérielle à travers tout ce qu'elles expriment physiquement, à la sacralité primordiale de la vie. Qu'est la vie ? Le mystère de la vie. Donc, concernant ce point énigmatique, école philosophique, tradition religieuse, voie de sagesse, chacune ont formalisé cette appréhension mystérique de la vie, de son principe supposé. Je ne vais pas développer cet aspect. Mais l'ambivalence potentielle que j'évoquais, elle relève de la traduction éthique de cette puissance pensante, désirante, dont nous sommes tous dotés. Et elle nous renvoie à l'éternelle question, alors contemporaine à tous les âges, hein. Quelle est ma réponse aux appels de la vie ? La qualité éthique de ma réponse existentielle concrétisée dans mes actes. Alors évidemment, j'évoque Hans Jonas, qui en a très bien parlé, avec son principe de responsabilité, mais bien d'autres, et je pense aussi à André Gorz, « Seul est digne de toi ce qui est bon pour tous », résumait-il dans une phrase lapidaire. Donc nous sommes aujourd'hui, en quelque sorte, pressés, par la force des événements, pressés à ressaisir, et c'est passionnant, à ressaisir la portée universelle, pluriniverselle, de nos actes personnels, ce qui est évoqué dans un des ateliers. Donc à revisiter ce qui préside à nos actes. C'est un sacré boulot, un sacré labeur, passionnant. Ce qui les génère. Donc, se convertir, c'est sonder, évaluer nos modes de pensée, nos représentations, la genèse de nos imaginaires, nos référentiels de valeur. On en a tous. Quel est mon référentiel de valeur ? Ce qui fonde mon agir. Je prononce très mal le mot, donc je te laisse le soin de nous éclairer sur ce propos et ses présupposés plus ou moins conscients sur le divin, le transcendant. Donc se convertir, c'est aller aux racines de nos modes de pensée afin éventuellement de les réorienter, de réorienter le sens directionnel existentiel de nos modes de vie, de les réajuster aujourd'hui aux limites planétaires et par là restaurer notre lien avec le vivant. Et par suite, nous engager évidemment dans une transformation structurelle de nos sociétés, ce qui implique, là aussi c'est passionnant, on ne peut pas rester seul, esselé, une œuvre nécessairement collective, donc politique. C'est Denis Medov, je ne le présente pas, cité en 2013, 30 ans après le rapport Medov de 2012. Il était très, très médiatisé aussi à cette époque. Pour les 30 ans, il a remodélisé. Mais évidemment, les courbes projetées en 2072 correspondaient à celles de la factualité, le diagnostic de 2012. Il disait ceci. Nous avons bâti un système économique qui correspond à des idées. La vraie question... sous-entendu, la question essentielle, cruciale, est de savoir, disait-il, comment nous allons changer d'idée pour changer de système. Vous voyez, la pertinence politique de la conversion spirituelle, sa force transformatrice de la société, elle est là, dans sa capacité à remettre la question la plus pressante, disait Albert Camus, la question du sens, avec un S majuscule, au cœur de nos vies. Ce qui faisait dire, je le cite, Éric Piolle, maire de Grenoble, « La spiritualité est l'adversaire le plus fort du capitalisme consumériste et financier qui attaque la question du sens pour ne penser qu'en termes de profit. » Fin de citation. Donc, outre le recouvrement de notre lien avec le vivant, à nous renaturer, dirait Jean-Marie Pelt, le processus de la conversion spirituelle, qui est vraiment motrice de la conversion socio-écologique, stimule un labeur, un job, un travail intérieur essentiel, celui du déconditionnement de nos addictions. Alors Serge Latouche aussi a développé le terme de décolonisation, du formatage de la culture ambiante prédominante, des imaginaires prédominants, on dirait maintenant, comme une forme de déculturation, parallèle à l'émergence d'un nouveau paradigme culturel. Donc ceci en vue de désartificialiser nos terres intérieures, parce que là aussi, ça s'endurcit. Ce que j'appelle l'inversion de la matérialisation de l'esprit. J'entends ici tout ce qui est l'assourdissement de nos capacités, de notre esprit, notre cœur, notre âme, à entendre, à écouter le cri du vivant, sa beauté aujourd'hui, ô combien malmenée, défigurée. Donc ce processus de revitalisation de nos terres intérieures éveille non seulement notre conscience à notre dépendance vitale, à la biosphère, à cette zone critique qui enveloppe notre habitat planétaire, mais régénère aussi notre sensibilité empathique au vivant, à sa beauté, à sa consistance, sa valeur propre, sa sacralité. La conversion donc spirituelle est un processus, on le devine, sur le temps long. Et le tic-tac de l'horloge climatique, dirait Christian de Pertuis, ça n'attend pas. On est un peu pris là. Mais un temps long qui peut être accéléré par ce que le philosophe Karl Jaspers appelle les situations limites. Les situations où on est déstabilisé dans nos assises existentielles. Et la période du confinement l'a été, et bien d'autres. Donc, pour nous réveiller, nous tirer de nos somnolences, nos habitudes solidaires d'un système écocide. Donc la conversion spirituelle, elle est synonyme, ça c'est un autre mot commun de ce propos, d'un réveil existentiel. Edgar Morin sort dernier petit livre, Réveillons-nous. Voilà, comme si notre regard s'éveillait peu à peu par ce processus au tissu de la réalité vivante, cette fascinante redécouverte d'un maillage extraordinaire dans lequel nous sommes totalement partie prenante. Redécouverte qui tend à neutraliser en nous les inclinations qui instrumentalisent le vivant à des fins de rentabilité, je le disais. Dans ce dynamisme de conversion de l'esprit, nous affranchit aussi, d'un autre point important, de l'illusion que nous pouvons satisfaire des aspirations qui sont de l'ordre de l'être, par des agréments, des contentements qui relèvent de l'avoir, du cumul de biens matériels. Donc la conversion spirituelle, en définitive, elle est libératrice de notre désir de fond, être avec. Être avec, vivre par et avec l'altérité du vivant, humain et autre qu'humain, en synergie, on pourrait dire. Nous sommes de la terre. Ouais. Bon, l'oreillette Patrice me dit passe à l'autre point. Donc je saute. Voilà, oui, c'est l'essentiel. Donc en fait, là, je vais aborder un propos encore plus névralgique, la place de l'humain au sein du vivant. Hein, j'avance en terrain miné. Donc l'écologie, le drame du délitement écologique, la science écologique et le drame du délitement de l'écosystème Terre. Les deux nous apprennent une chose essentielle, qui est l'âme de notre lutte éco-citoyenne, le vivant et relation. Le vivant et relation. L'écosystème Terre abrite une communauté de multiples écosystèmes en interaction. Et effectivement, tout est lié. Et de cet enseignement résulte une chose, à mon sens, plus importante encore, l'humain et les membres à part entière de la communauté biotique inscrits au tréfonds de notre corps, de notre âme, de notre personnalité humaine. Nous sommes de l'Adama, de la terre. Nous sommes des terreux. Adam, donc humanité, humus, vous connaissez ces étymologies, et humilité. Donc le fondement des archétypes génétiques de l'humain, de notre être physique, sont le condensé d'une poussière d'étoiles, dirait Hubert Reeves, une sorte de synthèse cosmique dans laquelle est enchâssée, alors plus encore, mieux, incarnée une singularité spirituelle. La puissance pensante, désirante, libre, caractéristique de ce que nous sommes, nous humains. Alors l'humain est par conséquent foncièrement dépendant du vivant, de l'air qu'il respire, la terre qui le soutient, le nourrit, l'eau qu'il boit, mais plus encore de la beauté foisonnante du vivant dont il apprend, dont il a à apprendre, à recevoir cette dépendance. Cette dépendance est à comprendre davantage en termes d'interdépendance, de coexistence, comme un appel à la solidarité, à valider un profondément heureux, apaisant sentiment de se sentir uni à tout ce qui existe. Donc d'être en interaction. J'ai aussi, chacun de nous a une vocation, une mission dans cette toile du vivant, et j'ai à recevoir de tous les êtres vivants qui constituent cette fresque du vivant. Alors je précise, la singularité spirituelle de l'être humain, alors je vais employer un mot explosif, sa spécificité se caractérise par une complexification, densification, qui lui permet de penser sa propre personnalité en collaboration avec ses semblables, au point de pouvoir transformer ses modes de vie, sa culture, et d'évoluer au fil du temps son histoire. Singularité qui qualifie l'humain d'une vocation, j'ai employé un autre mot dangereux, éminent, une vocation éminente au sein du vivant pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur ou le pire, quelquefois les deux sont mêlés. Et c'est plutôt, j'en conviens, le pire qui semble prédominer avec le drame écologique en cours. La puissance prédatrice de l'humain, je crois qu'elle est comme l'indice ou l'envers négatif de son éminence vocationnelle. Parce que la sixième extinction de masse, c'est l'humain qui la cause. Les cinq autres précédentes, il n'y avait pas d'humain. Donc c'est une éminence vocationnelle qui est lamentablement trahie, désavouée. Alors que l'humain est appelé à servir le vivant, à être son ami, son serviteur, son allié, on a parlé de co-alliance, et dont il en témoigne, dont il peut en témoigner. Et ce qui se passe aujourd'hui dans ces lieux, on témoigne de cette possibilité. On parle d'agroécologie, mais je pense aussi que le géomimétisme ou le biomimétisme en est un bel exemple contemporain et à venir, espérons-le. Tout comme les multiples faits au cours de l'histoire humaine, je pense à l'étude du PNAS, PNAS, l'Académie des sciences états-uniennes, fin avril 2021, relayée par le très bon média reporter, titré ainsi « L'humanité a favorisé la biodiversité pendant des millénaires ». Et certes, je n'ignore pas les études de Laurent Testot, Jean-Baptiste Frézos, qui soulignent aussi la dominante, surtout à partir du XVIe siècle, qui a été prédatrice. Donc je ne développe pas ce thème qui n'est pas mon propos. Mais toutefois, n'oublions pas le précieux legs à réhabiliter. Ça a été cité, ça sera cité à nouveau, des cultures autochtones, des civilisations premières, et d'autres témoins, tels François d'Assise, Hildegard de Bingen, Isaac le Syrien, Alexandre Maine, Thich Nhat Hanh et d'autres traditions sapientielles, religieuses. Donc en témoigne de cette heureuse, bienfaisante capacité. Et le fait que l'avidité, cupidité humaine, qui a détruit bien d'autres civilisations que celle qui est en train de s'autodétruire, la nôtre, on pense avec Jared Diamond, son livre sur les civilisations Inca, Maya, donc il n'y a pas que le capitalisme, c'est cette avidité, cupidité qui est au fond de chacun d'entre nous. On va dire un capitalisme intérieur, peut-être. Donc, si cette avidité, cupidité semble aujourd'hui prédominante, elle n'invalide pas la réalité de la vocation inscrite au cœur de chacun d'entre nous, tout être humain. Et là est l'ancre de notre espérance. Edgar Morin en parle bien aussi. Servir le vivant, le faire fructifier dans le respect de son intégrité, son rythme de renouvellement, et apprendre, ça j'insiste beaucoup, à recevoir du vivant. Car l'humain, et Laurent Testaud développe aussi cette dimension, bien d'autres avec lui, est également capable d'empathie, de compassion, de solidarité, et ce trait spécifique nous permet d'opérer des miracles de coopération, je cite Laurent Testaud, avec la nature. Ce qui nous permet vraiment d'espérer le meilleur en toute lucidité. Alors nous vivons, j'ose la formule, Patrick, je termine, un heureux temps apocalyptique, dirait le regretté Bruno Latour. Enthousiasmant, parce que révélateur, c'est le sens de Apocalypse, du sens de l'histoire. Révélateur de ce que nous sommes en vérité appelés à être. Cette nouvelle ère historique nous invite à saisir la main de l'inéluctable changement dans la dynamique de l'être du soi, de l'esprit, dirait Arne Naess, animateur de tout ce qui vit et respire. Alors je termine vraiment avec beaucoup de risques, je vais employer le mot anthropocentrisme. Aïe, aïe, aïe. Alors si anthropocentrisme, il y a, notamment dans la révélation transcrite, communiquée dans les évangiles. Le Verbe, la parole divine, s'est faite terreuse. Le Verbe s'est fait chair dans une chair humaine. Il y a un anthropocentrisme de fait. La foi en cette révélation, qui est aussi un combat, ne peut en aucun cas cautionner un anthropocentrisme despotique, déviant, tyrannique, etc., replié sur soi, prédateur parce que dominateur de l'autre, sourd aux clameurs de la terre et des pauvres, dit Laudato si, Pape François. Donc la foi en cette révélation valide au contraire un anthropocentrisme, si on tient encore à employer ce mot, j'y tiens pas, mordicus, hein, anthropocentrisme ouvert, un anthroposervice, acteur, cet anthropocentrisme, d'une non-puissance dominatrice, donc vecteur d'un service aimant. Bref, si on a cette foi qui vibre en nous, un anthropocentrisme christique qui assume l'heureuse singularité humaine à la lumière du Christ. Mais bon, on peut laisser tomber ce terme, on ne va pas se quereller sur ça. Mais en tout cas, pour assumer l'éminente singularité de l'humain dans la toile du vivant. Voilà, pour l'écouter. Je vous remercie.
Merci William. Voilà, tu as terminé sur cet anthropocentrisme de service, hein, de service du vivant. Bon, Stéphane va nous aborder un petit peu les différents, ce qu'il appelle les théologèmes. Voilà, il a écrit ce livre, l'écologie, tant champ de bataille théologique. Hein, quelles sont les différentes conceptions finalement théologiques qui doivent nous inspirer pour avancer dans ce service du vivant, finalement. Hein, c'est ça que tu vas traiter à la suite de William.
Merci. On a devant nous des enjeux majeurs. On doit changer profondément et très rapidement. Les changements, c'est des changements de structure, changement de l'économie, changement de la forme de nos villes. C'est des changements de mode de vie, des façons de vivre au quotidien. Et puis, on l'entend là, il y a un enjeu majeur de changer nos imaginaires. Ça a été beaucoup repris depuis ce matin. Je pense qu'imaginaire, il faut le comprendre au sens très large, spirituel, philosophique, nos conceptions du monde. On a fait référence à Félix Guattari avec l'écologie mentale, nos valeurs. Dans ces imaginaires, justement, il y a d'une certaine manière à faire d'une certaine manière un inventaire. Nos imaginaires, ils fonctionnent sur un certain fond. William a parlé de sonder, d'évaluer nos référentiels, nos imaginaires. Et dans nos sociétés occidentales, ce fond-là, c'est notamment le christianisme, en grande partie. Quelqu'un a parlé, juste à la conférence d'avant, de l'inertie causée par les monothéismes. Et c'est vrai que derrière beaucoup des conceptions qui nous guident, il y a ce que les philosophes appellent, alors théologème ou théologème, suivant comment on le prononce. Donc c'est un vieux mot qui date d'Aristote, un livre qu'il aurait écrit et qui a été perdu. L'idée, c'est que derrière nos conceptions du monde, de manière souvent pas aperçue, un peu en arrière-plan, il y a des conceptions théologiques qui tournent sans qu'on s'en aperçoive. L'exemple le plus évident, qui a rapport avec notre question, c'est la question du temps. On dit habituellement que les sociétés de l'Antiquité sont des sociétés qui ont un temps circulaire, c'est l'éternel retour, et que le judaïsme puis le christianisme vont amener un temps flèche, donc hier le paradis, demain le royaume, au milieu la résurrection, et donc qui va être une des bases, par exemple, de nos... l'idée, puisqu'on va d'aujourd'hui où c'est pas terrible à demain où ça serait le royaume, le paradis, etc. Donc on voit bien que comment c'est un espèce d'arrière-plan de ce qui va être la conception plus tard du progrès. Une partie de l'enjeu, c'est de savoir si ces théologèmes sont justement, comme l'a dit l'intervenant ce matin, une inertie mentale. Vous remarquerez que le terme inertie, ça dit que ça change lentement, ça ne dit pas que ça change. Mais ça dit qu'on a intérêt à peut-être avoir conscience qu'on a des inerties mentales et de pouvoir un peu analyser ce qu'elles sont, comme on dirait aujourd'hui, revoir notre logiciel. Dans les années 60, 66 avec Lynn White, 72 avec Karl Amri, on pourrait parler aussi de Charbonneau. Donc, il travaille avec Jacques Ellul. Il y a une mise en question du christianisme, disant c'est les conceptions du christianisme qui ont causé la crise écologique. Et donc, il y a un certain nombre de théologèmes qui sont mis en cause, alors, notamment en relisant Genèse 1, où il y a cette création de la terre et où une lecture assez littérale du texte donne à voir plutôt un anthropocentrisme, l'homme au centre. Un humain qui apparaît comme le dernier créé, donc c'est compris par beaucoup de lecteurs comme une supériorité de l'humain. Et puis ce fameux verset à Genèse 1:26, dominez la terre et remplissez-la. Ce que je vais montrer avec ce dominer la terre, c'est que justement ces théologèmes, en fait, ils évoluent dans le temps. Et si j'ai intitulé le bouquin « Écologie, champ de bataille théologique », c'est qu'ils évoluent dans le temps parce qu'il y a des débats, il y a des luttes théologiques qui font que les conceptions vont pouvoir évoluer. Donc, on a ce « Dominer la Terre » qui est écrit sans doute 2, 3 siècles, 4 siècles avant Jésus-Christ. Et puis, en fait, c'est une époque où l'humain est loin de dominer la Terre, il est plutôt dominé par la nature. Tout le texte biblique parle des famines, le récit du déluge raconte combien il y a la peur justement de l'eau qui va tout envahir, etc. Et d'une certaine manière, cette vision de l'humain dominant, ça reste sans doute une vision anthropocentrique et sans doute menaçante, mais finalement, elle n'a pas d'effet jusqu'à à peu près le XIIIe, le XIVe siècle, le XVIIe siècle. Au contraire, on a plutôt, tout le long du Moyen-Âge, une vision, si on prend les catégories de Descola, une vision analogique où en gros d'abord on a des sociétés qui reçoivent assez peu les innovations technologiques qui n'ont pas vraiment envie d'avoir de la croissance matérielle et puis surtout qui ont une vision de la nature symbolique, c'est-à-dire c'est ce que raconte Michel Foucault dans Les mots et les choses et ce que reprend Descola. C'est-à-dire qu'on regarde la nature comme étant symbolique de miroir de Dieu, dira plus tard Calvin. En gros, pour vous donner un exemple, le feu, c'est vu comme, c'est symbolique de l'âme qui monte vers le ciel, qui aspire vers le ciel. Et la nature est entièrement vue sur ce modèle-là. Et en fait, c'est que plus tard, à partir d'un centre de transformation, alors on pourra revenir dans le débat, mais en gros, Lynn White parle de transformation au XIIIe siècle avec des changements dans la théologie naturelle, il y a ce qu'on appelle le nominalisme, enfin, ça sera un peu long à expliquer, mais on pourra y revenir après, qui font qu'effectivement, on va avoir petit à petit une vision où l'humain va vouloir se faire puissance parce qu'il passe de l'idée d'un dieu qui est plutôt un dieu beauté, bonté, à un dieu qui passe d'abord par une vision de dieu de la puissance, c'est le dieu de la Renaissance. Et l'humain, se disant « je veux réaliser ce que veut Dieu sur terre », va commencer à rentrer effectivement dans des logiques de puissance. Et souvent, chez les chrétiens, on a cette facilité à dire « c'est pas nous, c'est la modernité ». C'est pas nous, c'est Descartes, c'est pas nous, c'est Bacon, etc. Bon. Enfin, Bacon et Descartes, ils viennent pas de nulle part, ils viennent de sociétés chrétiennes. Et Bacon a clairement des références dans ses textes, qui sont des références bibliques, où il veut rétablir d'ailleurs ce qui se passe justement en Genèse 1. Mais en fait, cette vision de dominer la terre, elle va commencer à être critiquée justement dans les années 60, dans les milieux chrétiens. Il va y avoir des conférences œcuméniques, orthodoxes, protestants principalement, qui vont réfléchir à l'avenir des sociétés industrielles. En 1974, à Bucarest, il y a une conférence qui va dire en fait, il faut lire différemment ce dominer la terre. Il faut le lire, et c'est le verbe hébreu qui dit en réalité plutôt ça, c'est dominer, c'est le verbe qui désigne le fait qu'un seigneur confie à un seigneur plus petit le fait de dominer, en fait, de gérer, d'être l'intendant d'un territoire qui lui est confié. Donc, on donne un territoire pour le gérer de manière responsable. Et en faisant cette relecture, les conférences œcuméniques vont dire, en fait, non, ce n'est pas dominer, c'est être intendant, c'est être gérant responsable de la terre. Et à cette conférence de Bucarest va naître le terme de développement soutenable dans cette lecture de gérance, un développement qui est soutenable, qui est responsable, terme de développement soutenable qui sera repris par les conférences de l'ONU dans les années 80. Et quand paraît ce texte-là, Jacques Ellul, donc je pense pas mal de gens ont entendu parler ici, dit c'est bien beau, mais si la responsabilité de la Terre, c'est face à Dieu, si aujourd'hui les sociétés ne croient plus en Dieu, en fait, les gens sont responsables devant personne, et il dit croire que les humains vont se sentir responsables devant d'autres humains, c'est un peu utopique et ça ne marchera jamais. Ce qui est intéressant, c'est que justement, ce qui s'est passé, c'est que cette responsabilité, cette idée de responsabilité, de développement soutenable, est reprise par la société civile. Et rapidement, on est responsable devant les générations futures, on est responsable devant les pays du Sud. Avec cet exemple, ce que je veux vous montrer, c'est qu'on part d'un dominer la terre, qui est un théologème un peu, d'une certaine manière, on dirait un théologème certes écocidaire, mais sans dents, sans efficacité jusqu'à peu près le XIVe siècle, qui après devient effectivement une des bases du saccage de la terre, et puis dans les années 60-70 peut être complètement retourné pour donner le développement soutenable. Et que donc il y a un enjeu des débats théologiques, il y a un enjeu des débats d'idées pour transformer nos conceptions du monde. Et que ça fonctionne, alors je vais vous dire d'abord deux gros mots et puis vous le donner avec une image bucolique pour les expliquer. Donc il y a d'abord des théologèmes qui sont un peu des concepts. Et ces théologèmes, il y en a un certain nombre qui poussent. Et ça fait un ensemble de visions du monde, de connaissances, que Michel Foucault appelait un épistémé. Donc en gros, vous avez des plantes, c'est mes théologèmes. Et puis suivant le nombre de plantes qu'il y a ou d'animaux, ça crée un écosystème. Et donc, vous avez les théologèmes qui sont les plantes et l'écosystème, c'est l'épistémé. Et donc, d'une certaine manière, plus il y a des sociétés, des groupes, des personnes qui produisent de l'imaginaire avec des concepts, alors y compris soit parce qu'on invente des concepts, soit parce qu'on va chercher d'autres concepts qu'on va rechercher dans le passé, parce qu'on va s'inspirer, et je terminerai là-dessus tout à l'heure, d'autres civilisations qui ont d'autres idées. Faut voir que, par exemple, une grande partie de la relecture que font les chrétiens de leur propre héritage se fait dans les années 60 parce qu'ils sont influencés en partie, en tout cas, des gens comme Lynn White. Ils sont influencés par la contre-culture américaine qui fait venir le bouddhisme, etc. Eh bien, parce qu'il y a cette mise en circuit d'un certain nombre de propositions et d'imaginaires, on va pouvoir changer l'épistémé ou l'écosystème des idées. Et que donc, il y a un enjeu dans cette bataille de qu'est-ce qu'on met en avant et qu'est-ce qu'on se réapproprie comme théologème, comme conception du monde. Notamment dans les théologèmes écocidaires qui viennent du christianisme, on a parlé de l'anthropocentrisme, de la supériorité de l'humain, d'un certain désenchantement de la nature, on pourra y revenir, la question du temps du progrès, et le fait qu'une grande partie de la théologie pensait que, par exemple, il n'y avait pas de salut pour les animaux ou la nature, c'est-à-dire qu'il n'y avait que l'humain qui était sauvé. Ce n'est pas le cas dans toute la théologie. Par exemple, Luther pensait que les pierres et les bois étaient ressuscités à la fin des temps. Il y a aussi toute une tradition, au contraire, d'épistémée plutôt écologique. Alors, je les ai, moi, regroupés un peu en quatre, ce que j'appelais quatre pelotes. Je vais les dire rapidement. La première, ce que j'appelais la pelote anti-idolâtre. C'est-à-dire, c'est notamment quelqu'un comme Jacques Ellul qui va dénoncer l'argent, mais surtout la technique, comme la nouvelle idole. Et c'est cette idée que, dans nos sociétés, on pense s'être débarrassé des dieux et des idoles, mais on les a tout le temps remplacés par d'autres idoles. Et donc, il y a toute une tradition dans le christianisme de cette dénonciation des idoles. Un deuxième courant, et j'irai vite, c'est ce que j'ai appelé le courant gestionnaire, c'est-à-dire tout ce courant qui s'est réapproprié la question de dominer la terre, qui est transformée en être responsable de la terre, et qui donne le développement durable. Le troisième pelote, c'est ce que j'ai appelé convivial, c'est-à-dire ce qu'on a évoqué tout à l'heure, par exemple, avec la question du vivant dans la table précédente, c'est comment des espèces différentes vivent ensemble. Là, il y a une grande figure qui est que Lynn White met en avant comme le premier écologiste en 1966 et puis qui a été mise en avant par le pape François, c'est bien sûr François d'Assise, qui va développer la fraternité de tous les vivants. Et François d'Assise, en fait, il prend place dans toute une tradition de personnes de moines principalement, qui vont relire une espèce d'utopie qu'on trouve dans la Bible, dans le prophète Ésaïe, qui imagine qu'à la fin des temps, le loup et l'agneau habiteront ensemble, l'enfant dormira sur le lit du serpent. Et ça donne lieu à plein de récits des premiers siècles jusqu'au Moyen-Âge, où vous avez, alors quand c'est au Moyen-Orient, c'est un lion, quand c'est en Irlande, c'est un ours, vous avez un moine qui embauche un ours ou un lion pour protéger ses salades contre les chèvres qui viendraient les manger. Et donc il y a toute une tradition et tout un imaginaire d'une convivialité et d'une alliance entre tous les vivants. Et ça pose toutes les questions qu'on a vues juste avant dans la table ronde sur le vivant. Et puis la dernière pelote, ça correspondrait dans la table ronde précédente à la question du sentir. Il y a tout un courant que moi j'ai appelé ruminant. Ruminant, pourquoi ? C'est une référence à Calvin qui dit si Dieu a donné des fleurs, c'est pas simplement pour qu'on les regarde en passant, mais c'est pour qu'on s'y arrête et qu'on rumine leur odeur et leur spectacle. Donc, ruminer, ce n'est pas en passant, mais le sentir une première fois, le sentir une deuxième fois, comme la vache fait revenir plusieurs fois la nourriture. Et cette pelote ruminante, moi, j'identifie chez des auteurs comme Henri-David Thoreau, Charbonneau avec le texte Le sentiment de nature, force révolutionnaire, des gens comme Albert Schweitzer, qui, en fait, à leur époque, vivent la même expérience. C'est un saut dans la guerre pour Schweitzer, un saut dans les techniques de la guerre avec 14-18 pour Schweitzer, la critique de la technique pour Charbonneau, pour Thoreau et Emerson au 19e siècle, milieu du 19e aux États-Unis, début de l'industrie et du commerce, de manière très intensive. Et face à ça, ils sentent qu'il y a une déshumanisation et une distance qui se crée entre l'humain et la nature. Et donc, ils disent qu'il faut aller dans la nature pour reprendre contact avec la nature, pour ressentir à nouveau la nature, pour ressentir plus grand que nous, ressentir du sacré. et avec ça, revenir critique de la société qui se développe. Alors, je terminerai en disant que ce sont il y a un double travail à faire qui n'est pas un travail uniquement pour les croyants, qui est un double travail, qui est un travail d'inventaire. Qu'est-ce qui, dans nos imaginaires, ne fonctionne pas et jusqu'où ça remonte et d'imagination, parce que, d'une certaine manière, tous les textes que j'ai évoqués, qu'on appelle les textes bibliques, ce sont des textes qu'on pourrait, alors je vais peut-être choquer certains des croyants, mais pour moi, ça fonctionne dans l'imagination, comme pour un enfant fonctionne la chèvre de M. Seguin ou le livre de votre enfance qui vous a marqué. C'est-à-dire que ça marque les imaginaires et ce sont des ressources d'imaginaire qu'on peut tous s'approprier sans forcément avoir besoin de défendre une transcendance ou l'existence d'un dieu personnel, etc. Et que, d'une certaine manière, la bonne nouvelle de ces dernières années, c'est que, alors que les questions spirituelles et d'imaginaire étaient quand même les parents pauvres du mouvement écologiste, et c'est très présent dans les années 70, ça disparaît et maintenant ça revient. Tous les derniers mouvements, je pense à tout ce qui se passe autour de Notre-Dame-des-Landes, du Triangle de Gonesse en Ile-de-France, on pourra encore citer d'autres, ont fait revenir d'autres imaginaires, qui sont les imaginaires souvent, par exemple, de la Wicca avec la figure de Starhawk. Donc, c'est Wicca, pour ceux qui ne savent pas, c'est une tradition des sorcières en Amérique du Nord. Et ça a rouvert la porte à la question de la spiritualité et des imaginaires. Et que je pense que ça nous invite à se reposer la question de ce patrimoine, ou en tout cas de cet inconscient et de ces théologèmes qui construisent nos rapports au monde dans les sociétés occidentales, pour le pire en partie, mais aussi pour le meilleur, si on sait peut-être aller chercher justement les théologèmes écologiques et minoritaires qui ont existé dans toute l'histoire du christianisme. Je vous remercie.
Merci Stéphane. Je crois que c'était très intéressant de citer ces différents théologèmes parce qu'effectivement, souvent, on n'en est pas conscient et c'est important de retrouver cette conscience de ce qui nous inspire sans que quelquefois on s'en rende compte, qu'on soit croyant ou non croyant. Alors là, je propose une petite pause qui peut vous permettre de poser quelques questions ou de témoigner les uns les autres par rapport à ce qu'a dit William sur la nécessité du spirituel pour avancer dans un nouvel imaginaire, dans une conversion spirituelle, et ce que vient de nous partager Stéphane. Alors donc, vous pouvez éventuellement prendre quelques minutes pour avancer, creuser ensemble ce sujet qui nous réunit. Voilà, alors il y a un micro qu'on peut faire passer.
Oui, merci pour ces présentations. J'aurais bien voulu revenir sur l'espérance, qui est une vertu souvent associée à la spiritualité dans le christianisme, qui est directement associée à on dit vertu théologale, donc directement associée à Dieu et à son essence. Je me demande, sur la question qui nous intéresse, comment on peut développer une espérance qui ne soit pas naïve et... oui, voilà, vous m'avez compris, je pense. Et comment, à l'inverse, on peut en faire une ressource qui peut nous aider à faire face aux défis qui sont les nôtres aujourd'hui.
Merci. On va prendre plusieurs questions, si vous voulez.
Oui, bonjour. Merci pour la qualité de vos interventions. Je suis très impressionnée. Je vais rejoindre la question précédente en m'interrogeant sur le risque de reset un peu facile et de comment dire, revisiter et ouais, merci. Et je pense notamment, alors je ne suis pas très, très vieille non plus, mais aux plus jeunes, et peut-être qu'il y a aussi à associer à de la pratique, enfin, c'est passionnant, hein, mais attention à ne pas se leurrer ou aller trop vite dans un nouvel imaginaire, pas désancré. Enfin, ouais, je ne sais pas si je suis claire, mais...
Pas incarné, voilà. Hein, c'est ça. D'accord. L'aspect de la pratique. Voilà, il y a d'autres intervenants. Voilà. Voilà. On aura des témoignages pratiques hein, dans un deuxième temps de la réunion. Hein. Allez-y.
J'avais une question. Dans le débat public, on entend parfois parler d'effondrement spirituel. Et j'aimerais bien, justement, j'ai l'impression qu'il y a une forme de contradiction que je n'arrive pas à saisir entre ce que tu as expliqué, qui est une nécessité, donc ça veut dire qu'il y a probablement quelque chose qui se dégrade, et la question des théologèmes qui... Qu'est-ce que ça veut dire en termes de théologèmes, justement, cet effondrement? Est-ce que c'est des changements de théologèmes? Comment, en fait, est-ce qu'il y en a toujours? Est-ce que c'est qu'il y en a moins? Est-ce que j'arrive pas à le comprendre, à articuler ça?
Merci. Moi, ma question, c'était qui fait un peu le pont peut-être entre vos deux interventions sur cette nécessité de la conversion et sur la Genèse 1, 20, 26. Il y a aussi la Genèse 2, 2, 15. Et donc, Elohim prend le glébu, je l'ai là. Donc, Adam le pose au jardin d'Éden pour le servir et le garder. Et donc, est-ce que ce n'est pas cette conversion et comment? Et enfin, ma question, c'est pourquoi est-ce que c'est la première version qui a dominé? Et puis, comment est-ce qu'on fait pour que ce soit la version 2.0, disons, de la Genèse qui gagne, quoi?
Voilà. Très bien. Bon, allez, une dernière question.
Ma question rejoint un petit peu la précédente. En fait, j'ai l'impression qu'on trouve beaucoup de ressources pour penser une spiritualité écologique dans l'Ancien Testament. Et moi, je m'attriste de cette impression que j'ai que le Nouveau Testament est vraiment, mais alors pour le coup, très, très anthropocentré. Que dans l'Évangile, on trouve surtout beaucoup de leçons pour vivre les uns avec les autres, ce qui est déjà très bien, mais presque rien, vous allez peut-être me contredire, pour vivre avec le reste du vivant.
Très bien, ben merci pour toutes ces questions qui, je pense, nous intéressent tous. Alors, bon, il y a le thème de l'espérance, hein, effectivement, qu'il faut certainement réintroduire. Le mot, vous ne l'avez pas prononcé, ni l'un ni l'autre, mais si tu l'as dit, ah, je n'ai pas entendu. Alors, est-ce que, voilà, comment ne pas tomber dans une espérance naïve aussi, hein?
Peut-être que je vais répondre sur la question là de, est-ce qu'on a moins de théologèmes ou, je pense que l'idée, justement, de, quand je parle de champ de bataille théologique, c'est que il n'y en a pas moins. Mais il n'y a pas que, malheureusement, il n'y a pas que les arts, il n'y a pas que les spiritualités, il n'y a pas que qui produisent des théologèmes. C'est-à-dire que le capitalisme produit en permanence de l'imaginaire et de la spiritualité. Alors peut-être une anti-spiritualité, c'est-à-dire si on entend par spiritualité quel est le sens des choses, qu'est-ce qui m'inspire, quel esprit souffle dans nos modes de fonctionnement. Le capitalisme produit, quel est le sens de la vie? Ben, avoir le plus d'argent possible et écraser les autres, etc. etc. Et que, déjà, sur le fond, il y a des capitalogèmes, je ne sais pas comment le dire, mais donc il y a une bataille entre des choses qui vont être produites par le théâtre, d'autres qui vont être produites par la bande dessinée, par les chansons. Je crois que les chansons sont un vecteur d'imaginaire très fort, par... comment continuer à fonctionner et sont revisitées des choses issues des théologèmes du christianisme. Donc, il y a cette première chose, c'est qu'il n'y a pas que... il y a une production d'imaginaire qui est massive, et notamment, je pense que là, se réapproprier toute la dimension de spiritualité est diverse. C'est une manière aussi de faire pièce aux imaginaires du capitalisme qui sont envoyés massivement par les écrans, par la publicité, etc., etc. L'autre élément, parce qu'on parlait de Félix Guattari ce matin, c'est en gros, lui, il parle d'un effondrement des subjectivités. Pourquoi il dit un effondrement? Parce qu'il dit qu'en gros, les gens grandissent de moins en moins dans un environnement humain et de plus en plus avec des machines. Que les grandes étapes de la vie sont moins marquées par des rituels. Et je pense qu'on voit... On pourrait avoir autour de nous à des rituels qui se réinventent en permanence. Le Pâques, le mariage pour tous, ont permis des réinventions de rituels, par exemple. Les mariages républicains sont des rituels qui, en tout cas à Paris, moi je suis en Seine-Saint-Denis, mais à Paris, en tout cas, fonctionnent assez bien. Donc, c'est des rituels qui passent par des traditions, des histoires, des personnes. Et il dit quand ça passe par des machines, là, il y a un effondrement des subjectivités qui fait que... on est plus rigide, on peut moins se déplacer, quand on va changer d'espace ou quand l'espace change autour de nous, on s'adapte moins parce qu'il y a une dimension d'imaginaire qui est plus pauvre. Et donc là, il y a un enjeu qui est effectivement à la fois une bataille et le risque d'un effondrement des subjectivités, en tout cas, c'est ce que dit Guattari, lié au fait qu'on passe plus par des machines et moins par du social, de l'humain, etc. C'est ce que je viens de dire. C'est pareil d'effondrement des subjectivités. Je mettrai la même. Pour moi, ça serait la même chose. Quoi. Ouais.
Alors sur la Bible, sur l'Ancien Testament, sur l'Évangile. Est-ce que...
Pour rebondir sur la dernière question, c'est vrai. Et là, je crois que l'Évangile, c'est un focus sur la geste de Dieu dans son ultime projet salvateur. Enfin, j'emploie des mots théologiques. Évidemment, la problématique écologique telle qu'on la vit, subit, enfin, le drame écologique, le séisme écologique, c'est contemporain depuis la révolution industrielle, surtout depuis les années 50, enfin vraiment. Mais il n'y avait pas de problématique dans ce sens-là il y a 2000 ans. Si dans Laudato aussi, par exemple, au chapitre 2, il développe toute cette éco-théologie à partir, c'est vrai, des références vétérotestamentaires. Mais quand on voit ce qui est écrit dans l'Apocalypse, notamment, alors là, c'est un autre éclairage parce que justement, c'est l'accomplissement, le sens ultime de l'histoire. On dénonçait Guy Giraud, etc., avec Fabrice Adjad et d'autres, une panne eschatologique depuis 40 ans. C'est-à-dire que l'humain, par un capitalisme consumériste, produit des imaginaires pour donner un sens la fin de l'histoire. C'est-à-dire que ça y est, on est arrivé au but. Mais en fait, non. C'est un assourdissement. Et si l'Évangile ne développe pas ce que nous développons maintenant, c'est que en fait, c'est l'aboutissement, c'est l'éclairage de ce que l'humain est appelé à être. Pour alors, il y a un point qu'on n'a pas encore abordé, qui est à mon avis déterminant. C'est Jacques Ellul en a beaucoup parlé. Une puissance de non-puissance. C'est-à-dire que Dieu, avec tous les théologèmes, alors Dieu puissant. Comme les humains qui veulent détruire, en fait, la puissance de Dieu se révèle dans la non-puissance. Et Jacques Ellul et bien d'autres en ont la kénose, et c'est évidemment. Donc, en fait, sa manifestation sera de rejoindre ce que chacun d'entre nous est appelé à être avec ses compétences, ses appétences, ses limites et ses capacités, le serviteur souffrant dans le sens que notre monde est vraiment boiteux. D'assumer ce boitement, c'est assumer cette propension au délitement, en effondrement. Alors comment, et là je vais peut-être parler de l'espérance, comment ça s'est passé à vue humaine, pas très bien. L'itinéraire du Christ se finit à vue humaine sur la croix, c'est un effondrement. Un effondrement, mais en fait, ça ne veut pas dire qu'on doit tous être crucifiés, etc. Ce n'est pas une lecture courte de ce que j'essayais de dire, mais de développer cette énergie puisée au tréfonds de nous, à des ensabés dont je parlais, cette puissance pensante et désirante, en étant les uns avec les autres. Et aujourd'hui, la chance que nous avons, la grâce, enfin, l'opportunité, c'est qu'on ne peut pas relever cet immense défi tout seul. Et en fait, cette puissance va se déployer les uns avec les autres sur un projet qui nous dépasse. Et donc l'espérance, dont il est question par-delà les espoirs passagers humains qui peuvent être légitimes, ça sera de forger quelque chose dont on ne peut pas avoir le scénario. Hein. Même si on va aller vers, certainement, comme dirait Alain Grandjean, vers de très très gros ennuis. Hein, mais ces très gros ennuis ne doivent pas alimenter en nous une impasse. Au contraire, ce chemin va être décidé, s'ouvrir, par cette synergie les uns avec les autres. Et là, le message du Christ, bon, je parle en tant que disciple de Jésus, apprenti chrétien tout le temps, où nous apprend à déployer cette énergie, cette puissance non-puissante, les uns avec les autres. Et donc là, le chemin va s'ouvrir sur un scénario sociétal qui nous dépasse. Donc, c'est Bernanos qui disait la plus haute forme d'espérance, c'est le désespoir surmonté. C'est-à-dire que si on n'a pas cet ancrage intérieur dont je parlais trop rapidement, le militantisme va s'épuiser. Mais c'est sûr que vous connaissez la phrase de Michel Maxime Héger, donc méditant, militant, moi j'ajoute méditant, priant, militant, résistant, parce qu'il y a vraiment de... pour justement ensemble surmonter sans aucun doute des moments qui nous menacent de désespérance. Mais ensemble, on pourra relever ce défi d'obscurité qui certainement va advenir. Voilà, mais je ne sais pas si je réponds bien à la question. En tout cas, sur l'Évangile, la problématique était, le focus était comment l'homme peut se sauver de lui-même, parce qu'actuellement, ce n'est pas sauver la planète, c'est sauver l'homme de lui-même par rapport à ce qu'il, sa force prédatrice, dominatrice du vivant.
Voilà, merci William, merci Stéphane, merci aussi tout à l'heure ce que tu as dit sur les deux versions de Genèse aussi, hein, qui, bon, ben, je crois que là, on a compris. Voilà, alors on va passer maintenant une deuxième partie qui va être un petit peu raccourcie, mais j'espère que vous pourrez rester un petit peu plus longtemps. Voilà, donc là, on a parlé, on a dit pourquoi effectivement l'enjeu climatique nous amenait à retrouver la dimension, à réinventer aussi peut-être la dimension spirituelle. Maintenant, on va voir aussi des exemples de prise en compte finalement de cet impératif écologique par des acteurs spirituels et notamment des acteurs chrétiens, puisqu'on est quand même dans un milieu chrétien ici, ou du moins dans une culture chrétienne. Et donc, on va commencer avec Arnaud Montou, qui a fait une thèse sur ce qu'il appelle les itinéraires irigéniens à Cluny, ça vient de Scott Erigène, avec un titre « Réordonner le cosmos ». Et donc, il va nous expliquer comment finalement les moines de Cluny intégraient finalement à leur manière cette dimension écologique qu'on se sent vraiment dans la nécessité de retrouver actuellement. Voilà. Alors, merci Arnaud. Et voilà, on a donc droit à même un petit spectacle. Enfin, un spectacle...
Je vais vous faire un petit spectacle.
En tout cas, je crois, avec en tout cas toute une dimension artistique qui est historique, très intéressante, parce que finalement,
on est
dans l'abbaye de Cluny, alors profitons-en.
Non, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un numéro de claquette, hein, je vous rassure. Je voudrais juste faire le lien entre ce qui vient d'être dit et ce que je vais vous dire, parce que ça m'a été servi sur un plateau d'argent, donc c'était génial. Votre question était très intéressante, me semble-t-il, et les réponses aussi par rapport à Ancien Testament et Nouveau Testament. Mais je pense qu'il y a une chose aussi qu'on ne doit jamais oublier, c'est que, en tout cas, en ce qui concerne la révélation chrétienne, telle qu'elle est comprise et telle qu'elle a été redécouverte au XXe siècle, je pense en particulier au Concile Vatican II, il y a eu un texte très important qui s'appelle Dei Verbum et qui parle de la révélation. Et dans ce texte, les pères du Concile Vatican II avaient rappelé que la révélation, ce n'était pas que des paroles, ce n'était pas que des discours, et que c'était aussi des gestes. Et que finalement, quand on regarde bien toute l'histoire biblique et tout le texte biblique, en fait, dans l'Évangile, il n'y a pas que des paroles de Jésus, il y a aussi des manières de faire de Jésus, il y a des manières d'agir, de se comporter, de vivre. Et c'est à partir de là aussi, je pense, qu'il y a un vrai rapport à la création qui est manifesté. Et peut-être le plus important, c'est quand même de voir que qu'est-ce qui est dit dans le Nouveau Testament de plus puissant, c'est que justement Dieu s'est fait chair. Et chair, ce n'est pas simplement chair humaine, même si c'est dans la chair d'un homme, c'est chair au sens matière. Donc ce qui apparemment était inconciliable dans certains systèmes théologiques ou spirituels ou même intellectuels, c'est que le plus spirituel se fait le plus matériel. Et ça, c'est quelque chose qui a sans doute toujours pas été digéré dans le christianisme, y compris. C'est-à-dire qu'il y a toujours des essais, des tentatives de s'échapper de cette réalité-là, parce que finalement, elle reste gênante, même si elle nous fascine. Voilà. Alors, je dis ça parce que, justement, ce que je vais vous montrer, c'est quelque chose qui peut être tout à fait en contradiction apparente avec certaines idées qu'on peut avoir sur le monachisme occidental médiéval. C'est-à-dire que quand on pense à Cluny, on pense assez naturellement à des moines qui avaient un discours extrêmement spiritualiste. Et pourtant, il y a des gestes au sens presque de la chanson de gestes ou du récit de gestes, il y a des gestes de ces moines qui laissent à penser que c'était beaucoup plus complexe qu'une vision spiritualisante ou spiritualiste ou dualiste, parce que le dualisme, ça va toujours. Enfin, le spiritualisme, les ismes s'aiment bien. Hein. Le spiritualisme, ça va souvent avec le dualisme. C'est-à-dire que quand on est tourné vers un spirituel absolu, c'est souvent au détriment, évidemment, de tout ce qui est matériel. Et donc, j'ai donné un titre qui fait écho à ce travail de thèse que j'ai fait sur Cluny. Donc, c'est original de vous emmener à Cluny en étant à Cluny, mais comme on fait un petit saut dans le temps, je l'ai intitulé « La procession qui guérit l'homme en faisant apparaître le monde ». Je ne vous explique pas le titre maintenant, mais je pense que vous le comprendrez mieux à la fin. Sinon, c'est que j'aurais raté mon spectacle, justement. Voilà. Alors, tout est sur mon PowerPoint. Il a déjà été envoyé, donc si ça vous intéresse, vous pourrez l'avoir. L'abbatiale de Cluny III, je replante juste le décor, même si on est juste à côté. Construction initiée vers 1080 par l'évêque de Semur et achevée en deux temps vers 1130 du temps de Pierre le Vénérable pour la nef et 1220 la Galilée qui se trouvait. Donc la Galilée, c'est ce qu'on appelait le narthex, hein, qui se trouvait à l'occident de l'église, qui est une sorte d'antéglise, hein, d'église avant l'église, à l'entrée. Et en 1095, ici, vous avez donc une représentation du pape Urbain II qui consacre deux autels et trois, une partie du chœur et trois chapelles du chœur. C'est simplement pour replacer le décor. On est à la fin du XIe siècle et au début du XIIe siècle, à une période tout à fait charnière, antérieure à celle qui a été évoquée tout à l'heure du XIIIe et qui commence déjà au XIIe siècle. Au XIIe siècle, il y a quelque chose qui change. Au milieu du XIIe siècle, l'Occident change. Il y a des évolutions techniques nouvelles et des évolutions aussi sociales et sociétales. C'est le moment de l'expansion des villes très importante, de l'expansion du commerce. Et vraiment, le monde est en train de rentrer dans une modernité déjà, ou une pré-modernité. Alors qu'à la fin du XIe, on est dans un autre monde. Hein. Donc, c'est une de ces périodes qui ressemble peut-être, ou à laquelle la nôtre ressemble un peu, peut-être. Alors, image suivante, on est encore plus proche, puisque là, on est juste derrière le mur. De l'abbatiale disparue, nous conservons quelques vestiges qui révèlent un décor très riche, d'un nouveau style, caractérisé par un certain recours à l'antique. Hein, donc, à Cluny III, on voit réapparaître des grands chapiteaux en feuilles d'acanthe, etc. Un retour à la nature, là aussi, d'une certaine manière. Un retour à des représentations plus respectueuses de la réalité naturelle. Ce n'est pas forcément à Cluny, on n'a pas énormément de chapiteaux historiés, en tout cas dans ce qui reste, dans ce qui a été retrouvé par les archéologues, dans ce qui est conservé, mais ce qu'on a retrouvé est quand même important. Mais toujours est-il que même s'il n'y a pas des chapiteaux historiés tant que ça, il y a beaucoup de chapiteaux végétaux qui montrent qu'on a un retour à l'antique et un retour donc aussi à une redécouverte de la nature, un peu comme une sorte de renaissance. D'ailleurs, on a parlé de renaissance du XIIe siècle. Mais je vous ai mis deux petits exemples ici. Il n'y a pas que des feuilles d'acanthe et des beaux bouquets végétaux dans Cluny III. Il y a aussi ces magnifiques fleurs et aussi ces magnifiques monstres. C'est quand même assez extraordinaire quand même de voir que dans la Galilée de Cluny III, vous avez une espèce de grande frise dont vous avez des morceaux qui sont conservés au musée Auchier hein, à Cluny, que vous connaissez sans doute mieux que moi si vous êtes clunisois. Et vous avez cette alternance extraordinaire, une fleur, un monstre, c'est assez original. Mais en tout cas, ça pour le coup, pour l'imaginaire, c'est assez intéressant. Et vous n'avez pas que des fleurs et des monstres, vous avez aussi des animaux. Là. Alors, ce sont des singes, vous n'en avez pas vu beaucoup, mais ce sont des singes. Et si vous voulez les trouver, il faut les chercher tout en haut, là, dans le transept, hein, ils sont là, tout en haut, à côté d'une fenêtre, encadrant une fenêtre, c'est un tout petit chapiteau. Et en fait, c'est assez intéressant parce qu'on se dit, mais c'est pourquoi ces représentations d'animaux si petits, si loin, presque à 30 mètres de haut, qu'on ne voit quasiment pas, en fait. Et donc, ça nous renvoie à l'idée aussi que ces représentations des animaux à l'intérieur de l'abbatiale ne sont pas que des représentations qui sont faites pour être vues, ou qui donc sont porteuses d'une symbolique très spéciale. C'est vrai que la symbolique au Moyen-Âge est très importante, mais on ne peut pas résumer l'imagerie, l'iconographie médiévale au symbole, parce qu'il y a des symboles qu'on ne voit pas. Et en fait, ce qui est probable, c'est qu'à cette époque-là, il faut que ces représentations animales soient là, parce que d'une certaine manière, l'abbatiale est en quelque sorte une représentation du monde. et qu'il faut qu'elle soit là parce qu'il faut que le monde tout entier soit convoqué à la réalité finale du salut. Ça, c'est une représentation que vous avez déjà sans doute vue. C'est un extrait d'un film 3D sur la abbatiale de Cluny III. Et les plus beaux vestiges du décor sculpté de Cluny III sont sans doute les grands chapiteaux du rond-point du cœur qui sont ici. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis cette image, qui sont présents dans le farinier, juste à côté. Là, je ne sais pas si ça sera encore ouvert en sortant, mais en tout cas, les grands chapiteaux du cœur, si vous ne les avez pas revus depuis longtemps, je vous conseille d'aller les voir. Alors, dans ma thèse, je m'étais dit qu'il ne fallait surtout pas m'intéresser à cette question-là, parce qu'il y a eu tant de thèses qui ont été faites sur ces chapiteaux que je me suis dit que c'était vraiment le truc le plus casse-figure qui était possible et que j'allais me faire taper dessus par tout le monde. Et puis, en fait, j'ai été obligé de le faire parce que j'ai essayé de mettre en lien ce bâtiment avec les sources théologiques disponibles à l'époque à la bibliothèque de Cluny au XIe, XIIe siècle. Et en regardant bien, il y avait une œuvre très étonnante qui a été condamnée d'ailleurs par mauvaise compréhension ultérieure, une œuvre d'un théologien du IXe siècle qui s'appelle Jean Scott Érigène, d'où l'adjectif de érigénien. Et Jean Scott Érigène, qui est donc un penseur irlandais, hein, qui a travaillé ici à l'époque de Charles le Chauve, ce n'était pas encore le royaume de France puisqu'on est au IXe siècle. Et ce Jean Scott Érigène, eh bien, il avait une vision de la nature qui était tout à fait étonnante. Et pour lui, la nature, ça voulait dire tout ce qui est et tout ce qui n'est pas. Et ça voulait dire autant Dieu que la création. C'est-à-dire que sous le terme de nature, Jean Scott Érigène rassemble les deux. C'est-à-dire c'est tout ce qui est, Dieu et la nature, mais aussi tout ce qui n'est pas. C'est-à-dire pour lui, Dieu est plutôt de l'ordre de ce qui n'est pas, non pas par négation, mais par excès, par suréminence, si vous voulez. Donc, c'est un des tenants de ce qu'on appelle la théologie négative. C'est-à-dire, on peut dire de Dieu ce qu'il n'est pas, et plutôt que ce qu'il est, parce que quand on dit ce qu'il est, on se trompe toujours. Quand on dit ce qu'il n'est pas, il y a de fortes chances qu'on se trompe moins. Son œuvre était là, toute son œuvre était présente dans la bibliothèque, et il est fort possible que cette œuvre majeure de la théologie, c'est un des premiers grands traités avant la période scolastique du XIIe, XIIIe siècle. Et c'est une œuvre clé qui a été longtemps oubliée, qui a été utilisée un peu sous le manteau, Spinoza l'a lu, etc. Mais comme elle a été condamnée au XIIIe siècle, on l'a un peu oubliée dans l'histoire de la pensée occidentale. Or, elle a été vraiment sans doute très importante parce qu'elle a porté un regard complètement différent justement sur la nature. Donc, ces chapiteaux, là, c'est une autre vision du rond-point du cœur vu par le déambulatoire, si vous voulez. Donc, les chapiteaux sont là. Ces œuvres qui sont placées au cœur du dispositif liturgique de l'abbatiale et de l'abbaye, qui doit être pour nous la clé de lecture de tout l'ensemble monumental, sont porteuses d'un programme théologique très complexe. Et c'est devant ces chapiteaux que commençait et s'achevait la grande procession dominicale des moines clunisiens au XIIe siècle. À la fin de la messe conventuelle, tous les moines de Cluny quittaient le cœur de l'abbatiale et faisaient une immense procession qui, en fait, traversait toute l'abbaye en s'arrêtant dans des lieux tout à fait étonnants qui étaient des lieux de la contingence humaine. C'est-à-dire, on s'arrêtait à l'infirmerie, première station liturgique. D'habitude, on s'arrête devant un autel, une statue, une croix. Ben là, c'était à l'entrée de l'infirmerie, puis à l'entrée du dortoir, puis à l'entrée du réfectoire, à l'entrée du cellier, puis à l'extérieur, dans la cour, à l'extérieur de la clôture monastique, donc à l'extérieur, dans le monde, voyez, dans cet endroit lointain et dangereux qu'est le monde, même si c'était à 100 mètres. Et ensuite, on revenait par la Galilée qui représentait la mort, le lieu de la mort, puisque c'est l'Occident, donc c'est le couchant. Hein, donc ça symbolise très naturellement dans une liturgie qui prend en compte le cosmos, ça symbolise très naturellement la mort. Puis on revenait au point de départ. Donc il y avait une grande procession circulaire comme ça qui commençait et qui s'achevait devant ces chapiteaux. Or, il y avait un de ces chapiteaux, on ne sait pas dans quel ordre ils étaient placés à l'intérieur de l'abbatiale. Il y avait un de ces chapiteaux qui montre justement, puisqu'on parlait de Genèse tout à l'heure, les quatre fleuves et les arbres du paradis. Donc ici, vous avez les représentations des fleuves qui sont là. Vous voyez, le fleuve s'enroule autour d'un personnage qui est représenté, qui est une sorte d'allégorie du fleuve. Et puis, de chaque côté, vous avez des arbres, les arbres du paradis. Alors, il se trouve que justement, Jean-Scott Érigène, dans le Périphuséon, sa grande œuvre, il parle très, très longuement du récit de la création. C'est une forme théologique assez connue et qui a eu beaucoup, beaucoup de représentations au fil du temps en théologie. Mais il s'y arrête de manière assez étonnante en disant que le paradis des origines, c'est en fait la nature humaine. C'est-à-dire que pour lui, le paradis, ce n'est pas absolument pas un lieu, ce n'est absolument pas ni un jardin, ni le monde idéalisé, mais c'est la nature originelle de l'homme, une nature spirituelle, totalement spirituelle, dans laquelle tout a été créé, mais de façon spirituelle. C'est-à-dire que pour lui, la nature humaine originelle, c'est là-dedans que l'univers entier a été créé, pour parler en termes un peu plus contemporains à nous. Imaginez les galaxies, voilà, tout ça créé à l'intérieur de l'homme, et non pas l'homme placé à l'intérieur dans le sens inverse. Et c'est à partir de là qu'il pense la création du monde. Donc pour lui, le récit de la Genèse est un récit tout à fait symbolique qui, en fait, doit être décrypté comme étant l'annonce d'une création d'une nature humaine originelle qui était à l'origine, qui remplissait tout. Et donc, il dit, il y avait un arbre, l'arbre tout, l'arbre qui remplissait tout, c'était la nature humaine originelle. Et cet arbre tout, en fait, on le voit, alors là, vous allez avoir, c'est Jean-Scott Érigène que je suis en train de vous expliquer ça, donc je passe à l'image suivante parce que je ne veux pas mettre tout le monde en retard. Ce chapiteau, si on regarde les quatre faces, il y a quelque chose d'assez étonnant que vous pouvez repérer assez facilement, c'est qu'il y a un décor ici que vous ne retrouvez pas sur les autres faces du chapiteau. Donc déjà, c'est une indication un peu précise quand même du sculpteur pour dire cette face-là, il faut la lire différemment des autres. Et de fait, si vous regardez, vous avez bien sûr des faces avec des arbres un peu différents, mais les fruits sont à peu près les mêmes et les historiens de l'art disent tous, ouais, c'est un peu du végétal indifférencié, voilà, avec des fruits qu'on peut imaginer comme étant des pêches, des pommes, tout ce que vous voulez, tout ce qui a une forme ronde. Sauf que là, on repère très bien que c'est de la vigne. C'est de la vigne avec des fruits composés de petits fruits qui sont des grappes de raisin. Et là, Jean-Scott Érigène parle de l'arbre composé et qui est l'arbre du péché originel. Et cet arbre du péché originel, en fait, il n'est pas rare que ça soit souvent représenté au XIe, XIIe siècle comme étant de la vigne. Et donc, il dit ça, c'est la nature humaine quand elle est descendue dans la réalité matérielle. Donc, on est passé d'une nature humaine originelle qui remplissait tout et qui était purement spirituelle à une nature humaine mélangée avec de la matière qui descend dans le monde. À partir de là, j'avais une clé de lecture qui me permettait de comprendre les chapiteaux, non pas comme quatre faces identiques qui devaient être lues les unes avec les autres comme des entités, mais trois faces plus une. Et en regardant bien les autres chapiteaux, puisqu'on parlait de l'espérance tout à l'heure, eh bien, vous avez un chapiteau sur les vertus théologales. Sauf que les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, il y en a trois. Et la quatrième face, qu'est-ce qu'il y avait dessus? Eh bien, la première des vertus cardinales, qui sont quatre, comme leur nom l'indique. Donc, ce qui voulait dire que le chapiteau suivant, vous aviez les trois vertus cardinales restantes, plus le premier des arts. Et puis, tout tournait comme ça. C'est-à-dire que premier chapiteau, vous avez une indication 3 plus 1, etc. Et en fait, ce que vous avez, c'est la description, pour vous faire très rapide, c'est la description chez Jean-Scott Érigène de la descente de Dieu à travers la nature humaine, depuis les hauteurs, les suréminences spirituelles, jusqu'à la réalité la plus matérielle qui soit. Et donc, chez Jean-Scott Érigène, là, j'accélère un peu, vous avez, là, c'est la procession hein, dont je vous parlais tout à l'heure, qui partait donc devant les chapiteaux, là, et qui faisait l'infirmerie, le dortoir, le réfectoire, le cellier, etc., etc., la Galilée, là-bas. Donc, en fait, ce que reproduisaient les moines dans leur procession dominicale, et qui était initiée en quelque sorte par cette descente représentée dans les chapiteaux, c'était une visite à travers les réalités de plus en plus matérielles, de plus en plus indigentes et habitées par les représentations du monde jusqu'aux créatures les plus viles aux yeux des plus spiritualistes d'entre eux. C'est pas ce que je pense, moi. Je ne pense pas qu'un sage, ça soit vil plus qu'autre chose. Mais justement, chez Jean-Scott Érigène, on nous conduit même jusque-là, puisqu'il dit « La représentation la plus utile pour parler de Dieu, ça serait le ver de terre. Beaucoup plus que le lion. » parce que le lion, c'est très flatteur, etc. Ça, c'est des classifications, vous voyez, le lion, le roi des animaux, tout ça. Mais le ver de terre, waouh, quand même, c'est une question, quand même. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole-là? Alors, même si on sait bien à quel point c'est utile, les vers de terre, ce n'est pas la créature forcément qui nous attire le plus. Mais en fait, pour Jean Scott Érigène, elle est très utile pour parler de Dieu parce que finalement, elle renvoie à ce qui est à l'autre bout de l'échelle dans une vision qui peut être encore duelle, hein, entre spirituel et matériel. Mais n'empêche qu'il prend en compte le fait que Dieu descend jusque-là et que finalement, et là, ça sera mon mot final, je ne sais pas où j'en suis, c'est pas grave. Le mot final, c'est de dire, chez Jean Scott Érigène, qui est un néoplatonicien, je ne sais pas du tout quelle est votre culture philosophique, mais qui est un néoplatonicien, solidement néoplatonicien. Hein. C'est-à-dire que forcément, ce qui est matériel, c'est moins bien que ce qui est spirituel. C'est clair et net. Eh bien, très étonnamment, ce penseur a dit que l'homme avait péché dans la nature spirituelle, et vous savez comment ? En fait, en jetant sur la création qui était à l'intérieur de lui, un regard de possession et un regard de profit pour lui-même. Donc, c'est un regard désordonné de l'homme sur la création qui est la véritable définition du péché originel chez Jean Scott Érigène. Et pour le guérir de cela, Dieu fait quoi ? Il le fait descendre dans la réalité matérielle pour, en quelque sorte, le guérir par la matière, le guérir par le monde, le guérir en faisant apparaître le monde dans toute sa matérialité. Et finalement, le cheminement de l'homme et cette descente de l'homme et de Dieu à travers l'homme, du plus spirituel vers le plus matériel, c'est pour, en quelque sorte, guérir l'homme. Donc la matière comme thérapeutique, en quelque sorte, non pas punition, mais thérapeutique, médecine, vraiment, au sens le plus basique du terme. Voilà, j'arrête là.
Merci vraiment Arnaud, c'est vraiment extra, surtout nous sommes dans cette abbaye et relire certains chapiteaux comme tu l'as fait en nous aidant à justement réfléchir à notre regard sur la création. Voilà, hein, ça avait été dit d'ailleurs tout à l'heure hein, par notamment William. Comment avoir un regard non plus de possession sur la création ou un regard dualiste, mais un regard effectivement de service de la création et même reconnaître que la création, la nature va nous guérir. Hein, il y a cette dimension de guérison que tu soulignes et qui est très, très intéressante. Donc voilà, on est revenu voilà, au 12e siècle, ou 11e, hein, c'est plutôt 11e. Et ben, maintenant, on va revenir à notre époque actuelle, avoir un peu des témoignages d'expérience dans ce domaine de l'articulation entre la vie spirituelle et l'écologie. Alors, frère Barthes, on va peut-être t'aiser. Je crois que vous êtes un des lieux quand même. Il y a notre ami là qui n'a pas pu venir, hein, Christine Christophe, qui malheureusement n'a pas pu venir, qui a écrit un bouquin que vous trouverez d'ailleurs dans la librairie. Hein, ça s'appelle « De la terre jusqu'au ciel, sur la terre comme au ciel ». Voilà, elle a visité toutes sortes de lieux spirituels en France. Hein, et voilà. Et parmi ces lieux spirituels, bah, par exemple, il y a le Carmel de Mazille aussi, qui n'est pas loin d'ici. Et il y a surtout Thésée. Alors, voilà, on va écouter ce que vous avez à nous partager sur, tiens, je vais prendre le micro, sur la manière dont vous vivez cette dimension écologique dans votre, comment vous l'intégrez dans votre pratique spirituelle.
Donc, Thésée, c'est un petit village à 10 km nord d'ici où Roger Schütz, pasteur protestant suisse, est arrivé dans les années 40. Là, ce qu'on vit actuellement, c'est d'accueillir des jeunes, de nombre plus ou moins important selon les semaines. Et puis, ces jeunes, ils sont là pour vivre avec nous une semaine de retraite, de prière, de partage, de travail practique. Dans tout ça, il y a bien sûr aussi l'écologie qui s'intègre. Les dernières deux années, on a eu des semaines qui étaient spécialement organisées autour de écologie et cette année autour de biodiversité. À côté de ça, on a aussi un programme, on a un petit cahier que chaque jeune reçoit quand ils arrivent à Thésée, et avec des thèmes pour chaque jour. Et une des jours, c'est le quatrième jour, il s'appelle Solidarité avec toute la création. Donc, on part à partir d'un texte biblique. Et puis, après, c'est aux jeunes de partager autour de ce thème. Beaucoup de jeunes, actuellement, ils ont quand même une certaine peur. Ils ont, comme on appelle ça, une éco-anxiété. Ils nous demandent qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Et pour ça, on a mis en place aussi des ateliers pratiques. Une des premières choses qu'on a fait, par exemple, c'est de créer un jardin solidaire. Comme travail pratique, les jeunes peuvent venir aider à cultiver de fruits et légumes que nous, on donne au reste du cœur ici à Cluny. Et c'est ce reste du cœur qui le partage parmi ceux qui ont besoin. Ça, c'est très joli. Et pour beaucoup de jeunes, de toucher la terre, de faire pousser quelque chose, c'est nouveau pour eux. À partir de ça, dans nous, dans la communauté, dès le début, on était assez soucieux de l'environnement. Un des premiers frères dans la communauté est intégré dans une ferme. Aujourd'hui, on appelle ça une exploitation agricole, mais à l'époque, c'était encore une ferme avec des vaches et des champs et des choses comme ça. Et très vite, ils ont vu que c'est très difficile de vivre quelque chose seul. Et puis, ils se sont mis ensemble avec tout le... agriculteurs dans le village, et ils ont créé une des premières GEC en France, GAEC, c'est le COPEX, qui existe toujours maintenant avec la troisième génération d'agriculteurs qui continuent leur exploitation. Bonne chose à dire, c'est que quand le frère a commencé, c'était pas très écologique. Actuellement, ils sont en train de transformer en culture bio. Encore une année, et puis le GAEC est transformé en bio. En conversion, exactement. Ce n'est pas nous, c'est le COPEX. Sinon, à Thésée, contraire à Cluny, quand on est arrivé, frère Roger Schutz, il a dit, pour que le frère puisse vivre, il faut que le frère travaille. Et on vive de travail de nos mains. Donc, il faut mettre la main à la pâte. Et ça, on a pris très littéralement parce que nous, on fait de la poterie pour gagner notre vie, entre autres. On fait d'autres choses, mais on fait de la poterie. Donc, il faut travailler la terre, il faut chercher la terre, il faut chercher les émaux. Et là aussi, c'est une chose, on peut faire deux choses. Soit on achète tous et on fait des choses, soit on cherche dans la région qu'est-ce qu'il existe et qu'est-ce qu'on utilise. Donc là, on a plutôt choisi pour cette dernière chose, on travaille avec des produits locaux. Il y a une argile qui vient d'Allier, pas si loin. Pour les émaux, on utilise des cendres et des minéraux qui ne viennent pas trop loin d'ici pour produire nos produits de lesquels on peut vivre. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire encore? Le cuisson, c'est encore un gaz qui vient de Russie, mais déjà, il y a une année, on a commencé à réfléchir parce que nos fours, ils ont 30 ans, ils commencent à être un petit peu usés. On se dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, c'est une grande réflexion. Est-ce qu'il faut cultiver à gaz? Est-ce qu'il faut mettre des biogaz? Est-ce qu'il faut mettre un électrique parce qu'on va installer des panneaux photovoltaïques? Est-ce qu'il faut mettre des graines et du bois? On ne sait pas exactement. Donc, c'est un petit peu toutes sortes de questions pratiques qu'on pose. Voilà, c'est ce que je peux dire. En très bref.
Merci. Voilà, ben on va écouter maintenant voilà ce qu'on vit dans une paroisse aussi, avec... Église verte, qui est donc une dynamique lancée par l'Église de France, hein, l'Église catholique. Hein, voilà. C'est œcuménique, hein, voilà. Hein, c'est œcuménique, voilà. Hein, voilà. Voilà. Donc, eh ben voilà, Priscilla et Xavier, vous nous dites ce que vous faites sur Cluny.
Je ne sais pas si je me déplace. On n'est plus très nombreux. Eh bien, juste un petit mot pour vous dire que l'Église verte, c'est un magnifique moyen de transformer une conversion personnelle déjà bien engagée, moi, depuis plusieurs années, sur le jardin, sur l'habitat, sur les déplacements. Mais c'est un défi pour tout le monde aujourd'hui de transformer finalement une conversion personnelle, une conversion spirituelle, une conversion biologique, une conversion biodynamique, une conversion bio, de transformer cette conversion personnelle en conversion communautaire. C'est un véritable défi, je pense qu'on en est tous conscients et qu'on est tous aussi avec cette difficulté de la vivre aujourd'hui. Marie, notre mère, était là, elle le vit bien, et on voit les difficultés avec la municipalité. Moi, je travaille dans un hôpital. On voit tout le défi qu'on a dans les hôpitaux aujourd'hui, hein, chauffer les chambres des malades, pas chauffer les églises. On s'est décidé avec Église Verte, on ne chauffera pas les églises cet hiver dans le diocèse, puisqu'on ne peut plus se le permettre. Mais ne pas chauffer les chambres des malades, c'est plus compliqué. Disons que c'est des choix qui sont plus difficiles à prendre. Voilà. Eh bien, Église Verte, je voulais juste témoigner de ça, c'est que grâce à un outil, vous savez que dans l'Église, l'univers de l'Église catholique, l'Église latine, l'encyclique du pape qui a été publiée en 2015, Laudato si, ça veut dire « loué sois-tu », a été vraiment un coup d'accélérateur. L'Église, c'est un gros vaisseau, c'est ma famille. Hein, et puis, je n'ai pas besoin d'en dire la richesse, vous êtes plongé dedans là, depuis une heure et vous envoyez une partie seulement de tout ce qu'il peut y avoir de richesse. Mais c'est un gros bateau et que faire transformer la conversion pour un gros bateau comme l'Église, c'est très difficile. Ben pour autant, ça a commencé. Et le pape a été vraiment un gros élan, a donné un élan magnifique. Et est né ensuite en Europe, en France et puis maintenant en Europe, avec toutes les églises chrétiennes, aussi les églises orthodoxes dont Priscilla est issue, et les églises issues de la Réforme. Et bien ce mouvement pour les églises, initialement fait pour les paroisses et pour les communautés. Ce qu'a pas dit frère Barthes, c'est que Thésée, ils ont été parmi les premiers dans le diocèse à démarrer ce label Église verte. En fait, c'est simplement un outil qui nous permet de nous mettre en mouvement sur nos bâtiments, sur nos espaces verts, sur nos modes de vie, sur la catéchèse et ce qui peut se dire dans les églises, dans les célébrations, et j'en oublie un, et sur les liens que nous avons avec la société, les municipalités, les communautés de communes, les associations locales. Voilà. Donc on essaye humblement, petitement, mais à notre mesure, d'une paroisse ici à Cluny, comme le font les frères à Thésée. Et aujourd'hui, 800 paroisses et communautés en France ont démarré cette mise en avant, voilà, qui nous fait bouger, qui nous permet donc de transformer cette conversion personnelle en quelque chose de communautaire.
Qu'est-ce que vous faites exactement comme initiative ? Donnez quelques exemples, peut-être.
Alors, Jardin de la Cure a été remis. Il y a un groupe qui travaille sur le jardin. Ça permet de faire aussi un tas de compost pour tous les groupes qui y passent. Il y a un groupe qui s'attache justement à l'interdépendance avec la mairie. La mairie a initié un travail de végétalisation ici à Cluny. On a préparé et invité Arnaud l'année dernière, qui a donné une magnifique conférence, qui était un peu plus longue que le quart d'heure qu'il a fait là, pour donner aussi aux collègues de la mairie, de la municipalité aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a dans notre patrimoine à Cluny. Aujourd'hui, on veut végétaliser et quel héritage on a. Et Dieu sait s'il est riche. Voilà, d'autres groupes qui travaillent sur les jardins avec la municipalité, sur les fontaines, un travail sur l'eau, un travail sur les forêts. On va avoir une réunion de l'ensemble du diocèse sur les forêts cette année. L'année dernière, c'était sur l'eau. Voilà. Et j'en oublie et je passe la parole pour une belle initiative qui vient de naître pour les familles à Priscilla.
Merci beaucoup. Oui, on a senti un appel, un besoin de beaucoup de monde de ne pas se sentir seul face aux défis que représente aujourd'hui cette conversion. Alors, toute la journée, j'ai noté des citations pour rebondir parce que ça fait vraiment écho à ce qu'on vit tous. Et donc, William, c'est la tienne, désartificialiser les terres intérieures qui me parle vraiment dans cette démarche, c'est comment on fait, comment on attaque ce chemin à titre individuel ou au niveau des familles. Alors, de la paroisse ici, donc on est dans une paroisse catholique, mais en effet, c'est des propositions qui ont été faites par l'Église de manière très œcuménique à ceux qu'ils souhaitent et qui, je pense, ont vocation à s'étendre parce qu'on a vu à quel point le spirituel est large et vaste et touche à ce sujet aujourd'hui de l'écologie. Donc, trouver un lieu et des ressources pour avancer pas à pas dans nos activités du quotidien. Essayer d'être plus respectueux de la création en revisitant la manière dont on s'alimente, dont on se déplace, dont on travaille, dont on vit nos loisirs et pourquoi cette démarche en fait, d'adoption d'un mode de vie écologique s'inscrit-elle dans l'Église et dans un parcours qu'on appelle Église verte parce qu'on se sent tout petit face à l'immensité de la tâche et où est-ce qu'on va puiser nos forces, nos ressources pour oser un peu se lancer dans cette aventure-là, mais c'est probablement dans cette foi et cette espérance qu'on a. Et je pense que c'est ce qui justifie, en tout cas pour moi et pour les personnes qui ont pour l'instant décidé de suivre ce parcours, de l'inscrire comme ça dans une démarche qui soit spirituelle en plus. Donc on est sur des réflexions très concrètes, très pragmatiques, mais qu'on n'arriverait peut-être pas à attaquer, qu'on n'aurait peut-être pas la force d'attaquer s'il n'y avait pas cette dimension spirituelle derrière. Et là, je ne vais pas du tout faire plaisir à Patrice, mais je vais passer la parole à une interlocutrice de plus, voilà, qui ne va pas parler très longtemps, mais parce que c'est d'autres approches spirituelles qui s'inscrivent aussi dans la terre, etc., que Charlotte va vous présenter très vite, qui ne sont pas églises vertes, mais qui sont tout à fait...
Bon, c'est une minute. On a lancé, j'ai travaillé depuis 20 ans sur les systèmes alimentaires durables aux Nations Unies, donc dans des contextes multiculturels, avec plusieurs... courant spirituel qui court derrière, on a lancé une campagne à l'écoute de la Terre pour faire exactement ce que Patrice nous a invité à faire en début de séance, mais dans les grandes rencontres politiques comme les COP, par exemple, inviter à se mettre à l'écoute de la nature. Je ne vais pas en dire plus. Il y a un site, listeningtotheearth.world. Mais ce que je voudrais rajouter par rapport aux discussions très riches, on a parlé de nouvel imaginaire, on a parlé de nouvelles pensées. Mais je crois que la spiritualité, c'est avant tout une question d'expérience qui dépasse les mots. Et je crois quand on va à Thésée et qu'on chante, il n'y a pas de mots pour ce qu'on vit. Quand on se met dans une position d'écoute intérieure ou d'écoute de la nature, c'est là où on touche à quelque chose voilà, qui est indicible, qui pour moi, si je dois mettre des mots dessous, c'est cette force d'amour qui anime la création. Et quand on est dans cette écoute, il n'y a plus la question de la séparation entre la nature et l'homme, et que le plus on peut inviter chacun à faire cette expérience d'écoute, le plus on pourra avancer sur ces questions qui paraissent infiniment complexes et sans espoir, mais dans cette posture-là, dans cette connexion-là, des nouveaux chances se s'ouvrent de nouveau. Merci.
Bravo, ben je crois que c'est une excellente conclusion à nos travaux. Vivre cette expérience, effectivement, pas être uniquement au niveau de la pensée, même si aujourd'hui on était beaucoup évidemment dans ce partage de la pensée et de l'imaginaire, vivre avant tout cette expérience de cet amour à vivre avec toute la création, avec le vivant. Merci beaucoup. Merci à vous tous pour votre patience. Et à bientôt.